Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Pour ce Radio Bark sur Grand Sud FM de la rentrée 2021, Madame la députée Emmanuelle Ménard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes députée de Béziers, précisons-le, de la circonscription de Béziers. Avec un nom comme ça, vous êtes la femme de Monsieur Ménard, le maire.
Tout mais, à fait.
mais vous êtes députée élue sur votre nom. Et alors, on vous classe droite, extrême droite. Ça vous convient? C'est...
Bah, écoutez, moi, j'aime pas trop le terme extrême droite, mais bon, je suis très à droite. Voilà, ouais. Je dirais plutôt très à droite.
Voilà, donc vous reniez pas certaines convictions sur lesquelles, d'ailleurs, vous avez été élu très probablement.
Absolument.
Alors, un député, on le sait, il est à Paris, à l'Assemblée, pour faire des lois, ou en tout cas pour y participer. Certains y participent à des degrés divers. D'ailleurs, vous, apparemment, selon le magazine Capital, je crois que vous êtes 47e sur les quelques 500 députés. Donc ça veut dire que vous bossez, que vous êtes présente et que vous faites du travail, notamment. Alors ça veut dire que vous apportez des propositions de loi, vous participez à des amendements, vous posez des questions. J'imagine que ça veut dire ça, Emmanuelle Ménard.
Tout à fait. Bah, écoutez, c'est le travail un peu basique du parlementaire, c'est-à-dire l'examen des textes de loi qu'on nous propose, que ce soit des textes qui émanent du gouvernement ou d'autres parlementaires. Et donc, ces textes, ils sont examinés en commission. Donc, il y a déjà une première partie du travail.
Vous siégez à la commission des lois, je crois.
À la commission des lois, tout à fait. Donc, ces textes, ils sont examinés d'abord en commission. Ensuite, ils sont examinés dans l'hémicycle. Et donc, il y a tout un travail, effectivement, d'amendement de ces textes, qui veut dire, pour parler clairement, on travaille les textes et on fait des propositions pour les améliorer. Alors, certains pensent que... C'est pas toujours pour les améliorer, mais en général, nous, c'est toujours pour essayer d'être le plus précis possible, pour essayer d'être le plus positif possible, pour essayer d'apporter le plus possible en fonction du texte aux Français qui sont concernés par le texte, quand c'est sur la sécurité.
Oui, par rapport à vos orientations, évidemment.
Par rapport à mes orientations, évidemment. Je suis pas, effectivement, pour toutes les questions de sécurité, je suis pas très laxiste. Pour les questions, je sais pas, moi, pour l'école, j'ai effectivement... aussi l'éducation, j'ai quand même quelques idées assez précises. Et donc il y a tout ce travail-là, et puis il y a aussi tout le travail de contrôle du gouvernement qui est de poser des questions, en fait. Poser des questions en attendant le plus possible des réponses concrètes et précises.
Alors en France, en tout cas, quand on est dans l'opposition, c'est pas toujours très facile dans la mesure où on a l'impression, et je crois que vous l'avez avoué à d'autres médias, que vous avez parfois l'impression de faire énormément de travail avec pas toujours des fruits qui apparaissent.
Ah, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais élue, en fait. On m'a dit, tu vas voir, de toute façon, tu t'es dans l'opposition, puis en plus, tu ne fais pas partie d'un groupe politique, parce que moi, je suis députée non inscrite, donc j'ai toute indépendance, j'ai pas de parti politique auquel je rends des comptes. Et on m'a dit, donc, en fait, tu pourras rien faire, tu pourras rien dire, tu auras très peu de temps de parole, et en fait, tu vas, en gros, quand tu seras à Paris, tu t'ennuieras à mourir. Voilà. Moi, j'ai pris le parti, je me suis dit, je vais essayer de faire mentir ceux qui me disaient ça. Et je vais essayer de trouver la faille. Et je pense que je l'ai trouvée parce qu'en fait, en réalité, je parle énormément dans l'hémicycle. Je suis effectivement très présente et je peux m'exprimer sur quasiment tous les sujets que je veux. Alors après, il y a des temps législatifs qui font que sur certains textes, les députés non inscrits, et c'est vrai, sont un peu défavorisés par rapport aux autres.
Voilà,
mais
c'est quand même plus difficile. Je me souviens avoir vu sur une vidéo, Madame Ménard, vous avez la parole, 5 minutes.
Quand c'est 5 minutes, je suis très contente. J'ai aussi eu des présidents de séance qui me disaient, Madame Ménard, vous avez la parole pour 10 secondes. Donc... Donc oui, ça concerne que certains textes où c'est une procédure particulière qui s'appelle le temps législatif programmé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça intéresse sûrement pas vos auditeurs, mais où effectivement on a des temps de parole alloués et on peut pas les dépasser. Et quand on vous dit vous avez 10 secondes, au bout de 10 secondes, ils coupent le micro.
Oui, oui.
Donc c'est pas comme ici où j'ai plus de liberté pour m'exprimer. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant, mais je vous dis, j'ai essayé de faire mentir à tous ceux qui me m'alertaient sur ce peu de possibilités qui allaient s'offrir à moi, et je crois que j'y suis arrivée parce que j'ai vraiment exploré toutes les failles possibles pour pouvoir parler, pour pouvoir m'exprimer, et ça passe Ça passe notamment par le dépôt d'amendements, qui sont évidemment, quand vous allez défendre un amendement sur un texte, quand vous allez défendre une idée, bah, évidemment, vous pouvez vous exprimer, et c'est l'occasion d'expliquer aussi ce qui se passe dans votre circonscription et les besoins de votre circonscription.
Oui, faire remonter comme
voilà,
vous dites, un certain
exactement.
Nombre de choses.
Et je pense qu'effectivement, j'ai compris comment ça fonctionnait et j'ai pu l'utiliser depuis 3 ans et demi largement.
Donc vous n'êtes pas finalement, au bout du compte, quand vous faites le bilan, si amer que ce qui pouvait paraître à première vue. Vous
non,
vous dites quand
pas,
même, je sers à quelque chose.
Je ne suis pas du tout amer. Alors l'utilité de mon mandat, bah, ce seront les électeurs qui l'apprécieront dans 1 an et demi. Mais je ne suis pas du tout amer parce qu'en plus, le travail que j'ai fourni, c'est vrai que par rapport à d'autres députés, je travaille beaucoup. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est simplement parce que comme je suis justement députée non inscrite, je n'ai pas les mêmes moyens que ceux qui appartiennent à un groupe. Ceux qui sont dans un groupe politique, ils ont des attachés parlementaires de groupe. Et moi, je ne suis pas dans un groupe politique, donc j'ai des attachés parlementaires, mais pas de groupe. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout le travail de fond sur les textes...
Il repose sur vous-même et votre équipe.
Exactement. C'est nous, c'est donc mes 3 attachés parlementaires et moi qui le faisons. Donc, on est 4 à travailler et uniquement 4. Il y a des groupes où il y a 4 attachés parlementaires qui travaillent pour l'ensemble des députés et qui sont capables de fournir sur un sujet particulier des notes de synthèse à n'en plus finir. Moi, j'ai pas ça. Donc, on est vraiment obligé de travailler beaucoup. Mais ce qui peut paraître un peu rebutant, en fait, d'abord, me donne une légitimité. C'est-à-dire que comme c'est moi qui travaille sur les dossiers, je les connais. Et du coup, ça me permet aussi d'asseoir une certaine légitimité dans l'hémicycle. C'est-à-dire que les autres députés ou les ministres s'aperçoivent que je travaille.
Oui, c'est ça. Comme chantait Sinatra, « My way ». Vous le
exactement.
Faites à ma façon, selon ma manière.
J'avais pas pensé à Sinatra, mais c'est tout à fait juste.
Et alors, ça, c'est sur la forme. Donc, sur le fond, Emmanuel Ménard, vous êtes très sensible à la bioéthique. Je crois que vous êtes contre le mariage homosexuel. Vous aviez clairement exprimé votre opposition.
Absolument, parce que et je me souviens très bien que quand alors j'étais pas députée à l'époque, hein, c'était le mariage pour tous, il a été voté sur la précédente mandature et je n'étais pas députée, mais j'avais effectivement exprimé mon opposition à ça en expliquant que ça aurait des répercussions sur la filiation et qu'il ne me semblait pas que ce soit une bonne chose. J'aurais préféré qu'on mette dans la loi une union ou un Pax amélioré ou ce genre de choses pour donner au même...
Le Pax existait déjà.
Le Pax existait déjà, mais ne donnait pas les mêmes droits, en fait, aux conjoints, donc que ce soit deux hommes ou deux femmes,
qu'un mariage.
Donc moi, j'aurais préféré qu'on travaille dans cette direction-là parce que, justement, je ne voulais pas que ça puisse avoir de conséquences sur la filiation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque... Les ministres qui défendaient cette mesure avaient dit « Mais non, bien sûr, ça n'aura aucun impact et aucune conséquence sur la filiation. On parle du mariage entre couples de même sexe. On ne parle absolument pas de PMA, encore moins de GPA. Et ce que je craignais, j'étais pas la seule à le craindre, c'était justement les répercussions pour les enfants. » Sur la PMA, la GPA. Bah, on n'avait pas tort, puisque justement, 3 ans ou 4 ans plus tard, on a eu ce fameux texte bioéthique qui autorise la PMA pour les couples de femmes. Et je vous garantis que la GPA n'est pas très loin.
Alors c'est si PMA, c'est la procréation.
Ah oui, alors, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, c'est ce qui permet à un couple de femmes de pouvoir avoir un enfant, avec des spermatozoïdes hommes, mais de pouvoir procréer un enfant. Alors qu'un couple de femmes, biologiquement, ne pourrait pas le faire. Et la GPA, c'est la gestation pour autrui.
C'est les mères porteuses.
Ce sont les mères porteuses, voilà. Et donc, c'est ce qui permet, notamment, pas seulement, mais notamment à des couples d'hommes de pouvoir avoir des enfants avec une mère porteuse, en général. Alors, comme c'est encore interdit en France, ils vont chercher ces mères porteuses à l'étranger.
Oui. Et alors, voilà.
Pour lever toute ambiguïté, ce n'est absolument pas un jugement moral sur l'homosexualité que je porte. C'est simplement... Moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'ai répété dans l'hémicycle pendant toute la durée des débats, je me place au niveau de l'intérêt de l'enfant.
De l'enfant, oui.
Je refuse, en fait, de légiférer sur le désir ou le droit à l'enfant, mais je veux me placer au niveau de l'intérêt de l'enfant, et donc ce que je défends, ce sont les droits de l'enfant. Et avec la PMA, la procréation médicalement assistée, que vous le vouliez ou non, et les défenseurs de la mesure essaient d'expliquer dans tout, par tout moyen possible que c'est pas vrai, mais que vous vouliez ou non, le législateur inscrit dans la loi, dans le marbre de la loi, qu'un enfant pourra naître sans père. Donc vous privez un enfant de son père. Voilà.
Oui, et ce qui peut parfois compliquer les choses dans la mesure où il y aurait recherche de filiation, des choses comme ça.
Alors là, on rentre dans les détails. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'effectivement, un enfant a le droit de connaître, de savoir qui est son père ou sa mère. Mais donc, une fois qu'un enfant sera né dans un couple de femmes et qu'il souhaitera connaître son père, on explique qu'il ne s'agit pas du père mais du géniteur. Expliquez-moi la différence quand l'enfant aura retrouvé son géniteur et qu'il voudra faire plus ample connaissance
avec
et,
son père.
Et le considérer comme son père, ce qu'il sera biologiquement parlant, ça paraît très compliqué. Et je pense que dans une vingtaine d'années, on va avoir les premiers cas judiciaires. Et je crains pour l'État français que les enfants qui seront nés comme ça, pour certains en tout cas, fassent des procès à l'État français en disant « mais vous m'avez privé sciemment de mon père et moi je le refuse ».
Une vingtaine d'années, vous le placez à cette échéance-là ?
Le temps que la loi entre en vigueur, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, puisqu'on en est à la deuxième lecture qui va arriver au Sénat là, dans quelques jours. Et ensuite, le temps qu'elle entre en vigueur et que les premières PMA effectivement aient lieu, quand les enfants seront majeurs, peut-être qu'ils se retourneront pour certains contre l'État français en disant « mais moi, je veux savoir qui est mon père et vous n'aviez pas le droit de me priver de mon père. Vous m'avez fait naître dans des couples de femmes. Mais moi, j'avais envie d'avoir un père et une mère, ce qui est légitime ».
Voilà. Emmanuel Ménard, on marque une première pause et on se retrouve pour une deuxième partie où on évoquera un peu plus précisément le rôle de, alors pour parler familièrement, le député dans sa circonscription, donc la vôtre de Béziers.
À tout à l'heure.